Seigneur, on est reconnaissant ce matin pour ton Fils Jésus, reconnaissant pour ton Église qui est issue de ce sacrifice que ton Fils a volontairement fait à la croix. Quel dévouement de la part de ton Fils, quel dévouement de ta part au Père Céleste de nous avoir envoyé ton précieux Fils. Ce sacrifice et le prix pour le rachat de notre âme a été coûteux et tu n'as pas regardé au prix. Parce qu'elle avait une grande valeur à tes yeux, Seigneur, parce que tu aimes ta créature. Merci d'avoir été jusqu'au bout, Seigneur, pour nous, de nous avoir pourchassés alors que nous étions loin. Et nous sommes ici ce matin réunis en toute reconnaissance. On sait, Seigneur, que ton Fils n'est pas né le 25 décembre, mais on veut souligner sa naissance, on veut l'apprécier. On veut le chanter, on veut le témoigner, on veut crier, on veut célébrer, on veut s'offrir des cadeaux, on veut avoir du plaisir à s'en rappeler, Seigneur. Et sois loué ce matin, alors qu'on va ouvrir ta parole et qu'on va, encore une fois, marcher dans le sentier de la vie de Jésus. Seigneur, on veut te prier pour nos deux frères qui ont accepté, Seigneur, d'être nominés comme pasteurs anciens et, Seigneur, qui œuvrent et qui t'aiment, Seigneur. Qui t'aime tellement. Bénis ces hommes, ce foyer et ce processus de nomination, Seigneur, que tu puisses être honoré et que ton Église puisse être bénie en tout cela. On te remet tout cela dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Pour prendre place, je vous invite à aller dans le livre de Matthieu. Le livre de Matthieu. Et vous allez en voir entendre des petites voix ce matin, puisque les enfants sont avec nous. Et je vais tenter de m'adapter à cela. Et je vais vous lire quelques versets dans Matthieu chapitre 1, verset 1. Vous y êtes tous là? Le livre des origines de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob. Jacob engendra Judas et ses frères. Judas engendra Pharets et Zara de Tamar. Pharets engendra Esron. Esron engendra Aram. Aram engendra Abinadad et Aminadad engendra Nasson. Nasson engendra Salmon. Salmon engendra Boaz de Rahab. Boaz engendra Jobed de Ruth. Ou Obed engendra Jessé. Jessé engendra le roi David. David engendra Salomon de la femme d'Uri. Et tout le peuple de Dieu dit. On va parler honnêtement. Combien, après avoir entendu la lecture, se pose la question ce matin? Non, mais Joël manque vraiment d'imagination comme texte sur la nativité. Levez la main. Personne, non, je suis sûr. Parce que de la moitié d'entre nous, en partant, quand on tombe généalogie, point, 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 discussion plate d'un mononcle dans la famille qui parle des ancêtres, puis bla, bla, bla. Hein? Et si on parle des généalogies bibliques, généralement, on saute la page. Soyez honnêtes. Bon, il y en a quelques-uns qui s'assument. Oui, oui. Moi, j'apprécie ça, l'honnêteté. C'est vraiment le texte souvent le moins populaire qu'on puisse lire à Noël. Et moi, j'aime ça, les textes pas populaires. J'ai comme une attraction à ça, ça... Je me dis toujours, si c'est pas populaire, si ça a de l'air plate, probablement il faut juste creuser un petit peu plus creux. Gratter un petit peu plus pour savoir pourquoi, qu'est-ce que je comprends pas pour que ce texte se retrouve là dans les Écritures et que le Seigneur voit bon de garder 2000 ans plus tard ce texte avec des noms, puis des noms. Et qu'on saute par-dessus rapidement lorsqu'on lit le livre de Matthieu, en ce cas-ci, ou d'autres livres. Ce matin, j'aimerais faire quelque chose que mon père m'a appris tout jeune, aller prendre une marche au cimetière. Ah, pour certains, ça peut paraître macabre, Et pourtant, il n'y a rien de macabre, c'est très instructif. Lorsqu'on allait à Saint-Prime, mon père m'amenait à l'église catholique, dans le cimetière juste à côté, où son grand-père avait vécu pendant des années avant de mourir, juste en face, dans un petit garage. Et là, il allait nous montrer la pierre tombale de son grand-père, Phileas. Il racontait des histoires sur ses longs cheveux. Et Phileas voulait être comme Samson, arrive lors des cheveux longs dans sa vieillesse. Et on a fait plusieurs cimetières comme ça, et j'ai appris qu'il y a beaucoup de choses à apprendre dans un cimetière. Il ne faut pas avoir peur de tout ça, c'est instructif. Et ce matin, on s'en va prendre une marche dans le cimetière familial de Jésus. Et certainement que si c'est gardé, il y a sûrement des histoires, des choses à retenir importantes qui vont faire apprécier encore plus la naissance de Jésus et la personne de Jésus lui-même. C'est ma maman, juste ici, à l'avant de la pierre tombale. Là où ce que son grand-père est, et là, il y a la date qui n'est pas encore écrite parce que grand-maman vient de mourir. Et donc, il n'est pas encore inscrit sur la pierre tombale avec son mari, qui est décédé bien des années auparavant, presque 40 ans auparavant. Et là, elle se trouve avec ma grand-mère, que j'ai jamais rencontrée derrière, qui est morte en 62, ainsi que mon oncle et une de mes cousines, une des plus vieilles de mes cousines. Et sur devant des pierres tombales importantes, c'est l'arrière-arrière-grand-père en arrière là, ici, du côté de ma grand-mère. Et là, c'est le grand-père à ma mère. Et là, sa grand-mère vient de mourir. Et c'était une femme de Dieu. Cette femme-là, juste sur l'image de droite, vous la voyez se marier en 1899. Eva Clara, elle a 13 ans. C'est choquant. Eva Clara Taylor, 1899. Elle a 13 ans, elle marie Charles Tétrault, mon arrière-grand-père, 23 ans. Léger détournement de mineur, mais avec consentement parental. C'est particulier, hein? Et j'ai une de mes grandes tantes, dont sa fille a gardé les souvenirs, et qui écrit ceci. Charles est décédé, il n'avait que 46 ans. Sa femme avait 36 ans. Laisse derrière lui 9 enfants à l'âge de 46 ans à sa femme, tous en bas de 20 ans. Dans la même année qu'il va mourir, 3 de ses enfants, Dieu merci, vont se marier. Ça a aidé son épouse. Et j'ai trouvé des informations intéressantes sur ce couple-là. Écoutez bien ceci. Ça vient d'une de mes grandes cousines. Charles est décédé d'une tuberculose généralisée à l'âge de 46 ans, en hiver. Et en février, Charles est malade d'une pneumonie et était couché dans une des chambres sans chauffage pour mieux respirer. Et demandait à Eva de lui lire la Bible. Depuis quelques années, il allait avec mon arrière-grand-mère à l'église. Avec sa tuque sur sa tête, parce qu'il n'y avait pas de chauffage, et un manteau sur le dos, elle lui lisait la Bible jusqu'à ce qu'il s'endorme. Parfois, il se réveillait et lui disait de lire la Bible. Les enfants et Wilda, ma grande tante, regardaient par les trous des nœuds des planches au plafond, alors qu'ils étaient en haut au lit, et pouvaient observer la scène. Charles aimait chanter et avait une belle voix, il semble, et il chantait « Voir mon Sauveur face à face ». Vous connaissez? « Voir mon Sauveur face à face, voir Jésus dans sa... » C'est beau, hein? Imaginez les enfants qui entendaient ça. Papa chantait comme ça puisqu'il l'avait appris à l'église. Et il chantait aussi « Quel ami fidèle et tendre ». Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. Imaginez les enfants qui entendaient papa et maman chanter ça en bas. Ça marque une enfance, n'est-ce pas, hein? Juste entendre ces voix, là, commencer ces deux premières lignes, il y a des frissons qui nous passent, hein? Il y a 122 ans, mon arrière-grand-père, et je l'ai découvert il y a juste quelques années, connaissait le Seigneur Jésus personnellement, avec son épouse. Et entre autres, leur propriétaire y était certainement pour quelque chose. Monsieur Robert, un pasteur presbytérien qui avait 60 ans et qui avait usé de charité envers leur famille. Monsieur Robert s'était converti en 1890. Il était un pasteur de la grande ligne, avait connu Shinicky et ses hommes de cette époque. Et il était généreux avec eux et il logeait dans un de ses logements. Et mon grand-père, il y a 122 ans, chantait ces louanges-là. Alors quand je regarde cette pierre-là, il y a beaucoup d'histoires quand je regarde la pierre de Charles, n'est-ce pas? Et tout à coup, quand je vous montre cette photo-là, après avoir raconté l'histoire, vous ne le regardez plus de la même façon, n'est-ce pas? Parce que là, on s'est souvenu des souvenirs qui viennent émotifs, des chants, des images, des souvenirs qui viennent chercher notre souvenir, des émotions, des sensations, des choses qu'on entend à l'oreille, etc., des choses qu'on voit. Et elle va mourir. Elle est décédée en 59, mais elle a vécu plusieurs années après la mort de son mari. Un an plus tard, elle mariait, à l'âge de 38 ans, ce fameux monsieur Robert, qui était un homme de Dieu et qui servait le Seigneur et qui lisait la Bible en famille. Et quand je regarde ça à l'époque, on retourne il y a 120 ans, vous savez, il n'y a pas 120 ans, mais il y a 102 ans. En 1922, il y avait très peu de foyers québécois dans lesquels il y avait des parents qui croyaient en Jésus, qui enseignaient Jésus, qui lisaient la Bible dans leur foyer et qui comprenaient le salut dans le nom de Jésus-Christ seul et seulement Jésus. Très peu. À ce moment-là, les églises évangéliques avaient chuté et vont quasiment ressusciter les églises évangéliques dans les années 50, 60 et particulièrement 70. C'était une période sombre. Une poignée d'églises évangéliques au Québec, peut-être même pas 10 églises francophones pour tout le Québec. Mais Charles et Eva chantaient Jésus dans leur foyer. C'est pas merveilleux, ça? Et il y a quelques mois de cela, j'ai enterré ma tante Rose, et j'ai pu retrouver certaines de ses pierres tombales, justement. Ma tante Rose, son mari, 47 ans auparavant, elle a été seule pendant 47 ans. C'est quand tu lis la pierre tombale, tu regardes la date, puis tu dis, OK, elle vient de décéder, ça fait 47 ans que cette femme-là est restée seule à servir Jésus après la mort de son mari. Ma mère est à côté de son père, mais aussi d'un petit frère mort à la naissance et d'une sœur mort à 25 ans, qui a marié cet homme-là polonais, traumatisé de la guerre, qui a traumatisé aussi sa famille avec les traumas qu'il avait vécu. Et qu'après sa femme de 25 ans est décédée, a marié une de ses sœurs de sa femme. Donc, il y a eu deux sœurs Tétro qui a traumatisé. Et la dernière décédée à 52 ans. Vous savez, quand on regarde ces pierres-là, ils ont des histoires. C'est pas juste des pierres, c'est pas juste des noms. Ils ont des dates, ils ont une époque. Il y a une histoire avec eux à apprendre. Vous me suivez? Et c'est ce que je veux vous faire comprendre ici. Qu'en lisant ces noms-là, c'est pas juste des noms. Ces gens-là ont des histoires, ces histoires qui nous apprennent des choses sur Jésus, sur pourquoi il est venu, ça nous apprend des choses sur Dieu, et sont vraiment importantes. Et ce matin, j'aimerais juste arrêter avec vous à quelques pierres tombales et vous raconter des histoires. Et qu'est-ce qu'on apprend sur Jésus dans ces histoires? Ça vous va maintenant? Un petit peu plus d'excitation d'apprendre une marche dans le cimetière? Bon, OK. Alors, je vais en aller à un autre bout. Vous êtes prêts? Verset 7, on continue. Salomon engendra Roboam. Et là, si vous étiez juif, vous feriez, oh, Roboam, ben oui, c'est lui qui finalement, par ses décisions, n'a pas pris des conseils. Le peuple, il y a eu le schisme en Israël entre le nord et le sud après Salomon. Roboam, celui qui n'a pas pris conseil, puis qui a séparé littéralement par ses choix. Et il y a une guerre qui a séparé le nord du sud. Ça a toujours été différent après ça, Israël et Juda. Roboam engendra Abia, Abia engendra Asa, Asa engendra Josaphat, Josaphat engendra Joram, Joram engendra Ozias, et Ozias engendra Joatham, et Joatham engendra Akaz, et Akaz engendra Ézéchias, Ézéchias engendra Manassé, Manassé Amon, et Amon engendra Josias, et Josias engendra Jéconia et ses frères. Ce fut alors la déportation à Babylone. Un moment historique pour Israël. Parce que là, c'était un danger pour que la foi des Juifs soit enlevée. puisse tomber à l'eau. Le temple détruit, déportation. Le peuple, la lignée est en danger. Et pourtant, on va lire tout de suite après. Après la déportation, ce Jéconia engendra Salatiel. Salatiel engendra Zorobabel. Zorobabel engendra Abiud. Abiud, Eliakim. Eliakim, Azar. Azar, Sadoc. Sadoc engendra Akim. Akim engendra Eliu. Eliu engendra Éléazar. Éléazar engendra Matan. Et Matan engendra Jacob. Jacob engendra Joseph. Et Jacob est l'époux de Marie, de laquelle est né, de elle, pas de lui, mais de elle, Jésus, que l'on appelle Christ. Et le peuple de Dieu dit avec une plus grande ardeur, un petit peu plus de conviction à cet amen-là que l'amen tantôt, hein? Vous savez, ce texte est vraiment important pour le Juif qui le lit. Parce que le Juif qui le lit, il veut savoir d'où ce que tu viens. Et si tu prétends être le Messie, tu dois avoir des ancêtres qui viennent valider ton identité. Pour un Juif, ces généalogies, c'est vraiment important. De qui tu viens, d'où tu viens, c'est très important. Et donc, pour un Juif qui lisait le livre de Matthieu, et Matthieu est orienté vers un peuple juif, c'est important d'établir en partant que ce livre-là, c'est le livre de l'origine de Jésus. Et d'où est-ce qu'il vient ce Jésus-là? Ben, un bon Juif veut savoir d'où est-ce que tu viens. Et on commence de cette façon-là pour cette raison. Alors que dans les autres évangiles, on commence pas comme ça parce que c'est pas adressé à des Juifs. Donc, l'approche est liée au public, premièrement. C'est important à le voir ici. Et il veut montrer ici qu'il est le roi légitime, le Messie. Et après avoir montré ça, ils montrent son ascendance humaine. Là, ils vont montrer dans les versets qui vont suivre, Marie et Joseph, ils vont montrer son ascendance divine, que c'est par le Saint-Esprit que c'est arrivé. Pas juste que ça vient de Marie et Joseph, non. Oui, ils utilisent Marie, elle a une ascendance aussi, on va en parler tantôt. Mais c'est une naissance divine également. Et le chapitre 2 va parler de l'hommage qui se fait à ce roi dont on tente de tuer, l'hostilité du roi terrestre contre ce roi, et finalement l'humiliation. L'humilité du roi qui doit quitter son pays, revenir, se cacher. Et donc, c'est très important, cet ordre-là. Le but de l'évangile de Matthieu, donc, est établi. Et là, maintenant, on veut regarder les leçons qu'on peut tirer. Ce matin, je vais tirer 4 grandes leçons que j'aimerais que vous reteniez ce matin de pourquoi cette généalogie est là, puis pourquoi ces noms sont importants pour nous à savoir. La première chose à apprendre du passé et qui va nous aider, c'est se souvenir des moments où ce que Dieu a démontré sa souveraineté, ça veut dire son contrôle ou sa providence en libérant son peuple des périls auxquels il faisait face. Et là, j'aurais pu choisir plusieurs histoires, je vais en nommer, mais je vais mettre une pierre tombale à celle que je veux démarquer, commencer avec Joram. Parce qu'en partant, si je dis Joram, la plupart d'entre vous faites comme « Hein? Joram? » Ça vous dit rien. À part du lecteur très attentif du livre des rois, Joram peut passer facilement sous silence. Un roi qui se démarque pas bien, bien, mais qui était marié avec une femme assez spéciale. Vous connaissez la femme de Joram? Vous devriez. Elle aurait pu s'appeler Bloody Mary, mais elle s'appelle Athalie. La reine, la seule reine qui a régné en Israël, c'était son épouse, elle a régné 6 ans. Et cette femme, qui venait du peuple du Nord, des Phéniciens, qui est une femme d'un peuple étranger et qui adorait des dieux, qu'elle a appris à adorer du côté de sa mère, Jézabel, ça vous dit quelque chose maintenant? Sa fille Athalie, et qui... Par convenance et par souci, Josaphat va faire une erreur, gouverné par Dieu. Ils vont marier pour avoir une bonne entente avec le roi du Nord, son fils Joram, avec une descendante, Athalie, du roi du Nord, pour avoir la paix. Mais cette femme a les mœurs du roi du Nord. Et quand que finalement son mari meurt et que son fils Akazia, qui n'est pas nommé ici, meurt, qu'est-ce qu'elle fait cette femme? Elle élimine toute la race royale au beau complet. Et on comprend ici que le Messie doit descendre de David. Il y a un danger, il y a une attaque ici à la lignée messianique, à la lignée royale. C'est la lignée qui a reçu une promesse de Dieu dans l'alliance davidique. Et là, cette femme met tout ça en péril. Et on lit cette histoire en quelques versets dans le chapitre 23 de 2 Chroniques. Elle tue tout le monde, excepté qu'il y a une des sœurs d'Akasia qui protège un petit bébé d'un an. Il va le cacher pendant 6 ans de temps, ce petit Joas. Et qui finalement, par différentes circonstances, Jéhojada, un sacrificateur important, par cette sœur d'Akasia, etc., ils vont garder l'enfant caché et le ramener, et il va régner à 7 ans finalement. Ils vont se débarrasser, par une manière dont Dieu coordonne tout cela, ils vont se débarrasser d'Athalie. Mais quand je dis Joram, c'est toute cette histoire-là qui doit revenir à l'esprit. Un moment où il y a eu un roi qui a fait un compromis, le danger que la race soit éliminée par une femme qui a des mauvaises mœurs, qui est méchante et qui a appris ça de sa mère, qui met en péril toute la lignée. Et Dieu protège. Dieu intervient. Parce que Dieu est au contrôle et il n'y a pas de chaos assez grand que Dieu a gardé le contrôle malgré l'apparence humaine de chaos. Pas amen? Il y en a peut-être d'entre vous ce matin qui dit non, mais dans ma vie, c'est le chaos, Joël. Il n'y a pas un chaos assez grand. En bon québécois, il n'y a pas un bordel dans ta vie assez grand que Dieu ne peut pas tirer son épingle du jeu et se glorifier à travers tout ce bazar humain. Peut-être tu penses découragé dans ta vie. Ta vie, peut-être tu la considères irrécupérable. J'aimerais dire que le Seigneur fait des miracles et sort de des situations pas d'allure des petits bijoux. Comme seulement Dieu peut le faire. Mais à l'apparence, ça a l'air irrécupérable. Et c'est ce qu'était cette histoire-là en Israël. Et quand je lis Joram, je me rappelle de cette histoire-là, Dieu qui est intervenu. On pourrait regarder plusieurs autres histoires où ce que Dieu est intervenu pour cette leçon-ci. Que ce soit à l'époque de Joseph et Marie, dans l'histoire qui va suivre juste après, il y a un roi qui veut tuer. Ça intimide pas Dieu, ça met pas Dieu en danger. Dieu y envoie un rêve. 2 rêves, 3 rêves, pas de problème. Il envoie des avertissements. Il fait ce qu'il faut pour protéger celui qui vient comme sauveur du monde. Regardez au verset 4. Puis là, vous regardez ce nom-là, puis vous voyez Abinadab engendra Naasson. Ça dit rien, hein? Naasson. Pourtant, son nom va apparaître dans le Pentateuque 8 fois. C'est celui qui, à l'époque de Moïse, va être le dirigeant du peuple de Juda en armée au début et à la fin du livre de Nombres. Il va être le général représentant de l'ensemble des gens de Juda, de la tribu de Juda. Et cet homme-là passait à travers le désert. Cet homme-là passait à travers les 40 ans où ce que Dieu nourrissait son peuple par de la bouffe qui tombait du ciel. C'est pas wonderful, ça. De la bouffe qui tombe du ciel. Mais quand on lit Naasson, nous, ça nous dit rien. Mais ça, c'est un gars qui a été nourri du ciel pendant 40 ans, qui a marché avec des sandales qui n'ont pas usé. Ça, c'est Dieu. Mais je lis juste Naasson, ça ne vous dit rien. Mais si je vous rappelle quand est-ce qu'il a vécu, et que je vous rappelle qu'est-ce qu'il a vécu dans le désert, tout à coup, tu dis, OK, c'est un de ces gars-là que Dieu a protégé dans le désert. Lorsque Israël est en danger en Égypte, lorsqu'on voulait tuer ses bébés, lorsqu'ils ont été attaqués, que Dieu a été intervenu, lorsqu'ils ont passé 40 ans dans le désert à tourner en rond, puis que ce peuple-là va rentrer par un miracle en Israël, traverser la mer Rouge, traverser le Jourdain, cet homme-là a été de cette époque-là. Quand tu attends, tu t'attardes au nom, tu te rappelles que Dieu est au contrôle et qu'il n'y a aucune situation de l'histoire qui a échappé Dieu et que Dieu est capable de réchapper n'importe quelle histoire, pas d'allure, dangereuse, qui met en péril son histoire à lui. Parce que son histoire, les amis, son histoire à lui va se rendre à terme, peu importe les tentatives du diable de les briser, de les détruire. Et l'histoire qu'il a dans ta vie va se rendre à terme, peu importe les erreurs que tu vas faire, par la grâce de Dieu, Dieu va se rendre à terme. Avec l'histoire de ta vie aussi. Pourquoi? Parce que ces histoires nous rappellent que Dieu est souverainement au contrôle de toutes les circonstances. Et jamais il perd le contrôle. C'est ce que veut dire cette expression « Dieu souverain ». De plus, cela souligne la fidélité à tenir sa parole. Il a fait une promesse. Peu importe ce qui va arriver, il va trouver moyen de tenir sa promesse. Peu importe les circonstances, les bâtons qu'on va mettre dans les roues, les gens qui vont tenter de tuer, faire des massacres et de tordre l'histoire et de faire l'histoire, Dieu est fidèle et il tient sa parole. Il ne l'échappera jamais. Il ne dira jamais une parole en l'air qu'il n'accomplira pas. Et il se porte lui-même comme Dieu souverain, comme roi tout-puissant, garant de tenir sa parole. Et c'est ce qui nous donne tant d'assurance comme chrétiens. Et c'est ce qui nous donne tant de fierté et d'assurance lorsqu'on marche dans le cimetière de la famille de Jésus pour voir ses histoires. Et je vous en nomme juste quelques-unes. Je pourrais passer la journée à vous en raconter. Mais on fait le point ici. Deuxièmement, ça nous rappelle la grâce de Dieu dans sa lignée humaine. Et je vous rappelle cette histoire. On retrouve justement au verset 3, avant de mentionner Nasson, mais Nasson est la sixième génération à partir d'un homme qui s'appelle Judas. Et dont la belle histoire de Judas se trouve dans Genèse chapitre 38. Et je dis bien belle, parce qu'évidemment, c'est une histoire, en anglais on dirait gory, sale, pas très jolie. Parce que vous savez, pendant que Joseph était en Égypte, et que lui va passer à travers un processus de 22 ans à être forgé dans des épreuves pour un jour à 39 ans être prêt à devenir le numéro 2 ou numéro 3 de l'Égypte en grandeur, en pouvoir. Pendant ce temps-là, le frère qui l'a trahi, ce fameux Judas au verset 3, lui va vivre 22 ans aussi de formation. Pas facile. Ce Judas-là va marier une femme cananéenne. Et il va s'éloigner de ses frères parce que, évidemment, il a trahi sa famille, il a menti à son père, il est plus capable de voir son père brailler sur la mort de Joseph. Alors, il sauve plus loin, il marie une femme du pays, plus capable de voir sa famille, rongé par la culpabilité de son frère qui a trahi, qui a vendu. Ce Judas-là va être travaillé pendant 22 ans aussi, parallèlement à Joseph. Mais on le passe sous silence. Et ses deux premiers fils, rendus adultes, vont se marier, vont mourir, mariés à une femme qui s'appelle Tamar. Ces hommes méchants sont punis par l'Éternel et ils sont morts tous les deux. Et là, il y a un troisième plus jeune, parce qu'évidemment, le plus vieux meurt, fait, qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse? Ben, il faut qu'il marie sa sœur, sa belle-sœur, parce qu'il n'y a pas eu d'enfant pour son frère. Et là, il le fait, puis par des choses pas très catholiques qu'il a faites, ben finalement, Dieu va le faire mourir. Il veut pas s'assurer qu'il y aura pas d'enfant avec cette Tamar-là. Et finalement, il va mourir. Et là, Judas dit, ben écoute, cette fille-là, elle donne la poisse, là. Ça fait deux de mes fils qui meurent. Mais il faut qu'il s'aille un père honorable. Fait qu'il faut qu'il puisse relever le nom de ses frères aînés. Fait qu'il dit, écoute, il y en a un plus jeune, je vais le garder, puis il va te marier dans quelques années, mais qu'il s'est rendu prêtre. Mais dans sa tête, il dit, ben oui, le malade, moi, m'a donné mon fils à la tueuse d'hommes, là, tu sais, là, tout le monde qui marie ta mort, il meurt, tu sais. Au lieu de voir plutôt la méchanceté de ses fils, c'est le jugement de Dieu, hein. Et là, elle voit ça, puis à un moment donné, elle se dit, ben moi, m'a l'avoir, tu vas voir, m'a trouvé un moyen. Quand la femme de Judas meurt, est dans le deuil, et qu'il, là, il va voyager, etc., elle fait croire qu'elle est une prostituée sur un coin de chemin important, passant. Et lui, dans le deuil, vulnérable, à quelque part, elle devait savoir qu'il allait tomber dans le piège, qu'il n'y avait pas grand moral. Et il va coucher avec cette femme-là, qu'il ne reconnaît pas, elle a un voile. Il va lui donner sa carte de crédit. Puis, ça va être évident, c'est qui? Oui, il a donné sa carte de crédit. Vous ne saviez pas? Oui, il a donné sa carte de crédit. Oui, il a donné un sceau. Le sceau, c'était comme une carte de crédit. C'est l'équivalent de l'époque, 4000 ans à peu près, là. Donner ton sceau. Il a donné des garanties qu'elle allait venir payer. Puis là, quand ils sont venus pour payer, ils découvrent, hey, elle n'est pas là, puis tatata. Puis là, finalement, après ça, ils découvrent que, hey, ta belle-fille est enceinte. Oh, ben, brûlez-la! L'espèce, c'est indigne! Finalement, elle a dit, en passant, celui qui m'a mis enceinte, ben, voilà sa carte de crédit. C'est une Mastercard, au nom de Judas. Et là, le monsieur, ben, il a ri jaune. Et là, tout à coup, il dit, oh, ben, finalement, OK. Ben en fait, je suis pire qu'elle. Il va avoir un brin de lucidité. Mais tout ça est le long périple que Judas va devoir vivre pour être prêt un jour à revoir son frère en Égypte. Et là, d'avoir été labouré, humilié, brisé dans son cœur devant la méchanceté de son cœur, pour en arriver un jour lorsque l'opportunité de trahir Benjamin, l'autre fils préféré de son père, qu'est-ce qu'il va faire tout à coup après avoir été labouré dans tout ça? Il va dire, non, prends-moi la place. Je peux pas faire ça à mon père. Je dis, oh! Il s'est passé quelque chose dans la vie de ce Judas-là. C'est pas le Judas qu'on a connu il y a 22 ans. Qu'est-ce qui s'est passé? Cette longue histoire d'épreuves dans sa vie, qui l'ont labouré, confronté à lui-même, confronté à sa moralité, confronté à son égoïsme, confronté à toutes ces choses à lui, et que là, il comprenne quelque chose qui fait qu'il change de comportement réellement. Et qui va marquer l'histoire maintenant différemment, par sa protection de Benjamin, et par le fait qu'il va tenir comme protecteur et même rédempteur, prendre la place de son frère, plutôt que de voir son frère Benjamin payer une faute qu'il n'avait pas faite. C'est tout un piège, une longue histoire. Judas et Tamar, c'est pas une femme juive. Elle vient d'une autre nation, cette femme-là. Et elle se retrouve mentionnée ici dans l'histoire avec les ancêtres de Jésus, dans cette histoire pas très, très catholique. Pas très, très grand-chose, en fait. Gênante. Mais ils vont pas juste mentionner Judas, ils vont mentionner la femme avec qui il y a eu des jumeaux. Pour pas que ça passe incognito. Fait que quand que tu te promènes dans la généalogie de Jésus, tu es obligé de passer cette histoire-là avec ce Judas-là, mais tu peux pas juste faire, « Ah oui, un Judas, là, celui qui a protégé son frère. » Non, celui qui est marié avec Tamar. Tu sais, l'histoire, là, avec Tamar. Ça fait partie de la famille de Jésus, ça. Ah oui. OK, c'est gênant. Ouais. C'est Jésus. Le Père Céleste a vu bon pour nous de voir la multitude de pécheurs et de leurs histoires jusqu'à Jésus. Et qu'il y avait de grands pécheurs dans cette famille. Allant jusqu'au roi David à qui il y a une grande promesse, mais qui tue un homme pour coucher avec sa femme. Ça n'a pas été enlevé. C'est là. C'est dans l'histoire. Et combien d'autres histoires aussi, comme Roboam, que j'ai mentionné tantôt, qui sont de ceux qui nous rappellent que dans la famille de Jésus, il y a beaucoup de pécheurs. Et que Dieu les a graciés. Judas a été gracié. David est une histoire de la grâce de Dieu. Roboam, et sa généalogie est une histoire de la grâce de Dieu. Malgré tout, de lui va venir un Asa, un Josaphat, un bon roi qui aimait Dieu sincèrement. Dieu a usé de grâce. Et veut nous rappeler que non seulement Dieu dans cette histoire-là, dans ce cimetière-là, Dieu est souverainement au contrôle et tient ses promesses, mais que deuxièmement, Dieu est rempli de grâce et qu'il est bon et qu'il s'occupe des pécheurs, même s'il pourrait s'en débarrasser, et qu'il est dans une famille de pécheurs et qu'il use de grâce et qu'il n'y a pas trop de péchés dans ta vie. Il n'y a pas trop de péchés dans ma vie que Dieu ne peut pas pardonner si je lui demande pardon et que je le reconnais comme seul pardonneur des péchés, seul sauveur. Et ça, c'est vraiment une leçon importante qu'on va revenir brièvement tantôt. Par les péchés qui ont terni l'histoire de son peuple, Dieu veut rappeler la nécessité qu'il y a d'avoir un sauveur sur cette terre, dans cette famille. Même les plus grands, même les rois, les proches de Dieu, comme David, sont marqués par le péché des plus condamnables. Et si Dieu avait choisi le peuple d'Israël pour être l'ancêtre du Messie, ce n'était pas parce qu'il avait des plus grandes qualités que les autres, mais bien parce qu'il a choisi de l'aimer. Pour être une lumière parmi les nations et faire connaître Dieu parmi les nations. Mais sa lumière a été pâle, malheureusement. Mais Dieu, il a quand même amené sa lumière dans les nations. Quand la lumière d'Israël était pâle, puis que le prophète de l'Éternel voulait sauver dans un autre pays plutôt qu'aller en Syrie, qu'est-ce qu'il fait? Il le ramène avec un poisson. Parce qu'il n'y a pas un moyen logistique que Dieu n'a pas en ressources pour faire accomplir sa volonté et l'amener aux nations quand il veut. Même quand son peuple est pâle et n'a pas une grande lumière qui brille. Et ça, c'est pas pour nous déresponsabiliser. Ça calme notre cœur. Ça enlève la pression sur nous. Ça nous rappelle que c'est lui qui est au contrôle. Ça nous fait apprécier et dire, merci Seigneur d'être si gracieux. Merci d'être si patient. Parce que ces histoires-là, finalement, c'est aussi des histoires de ma vie à moi. Qui a besoin de la même patience, de la même grâce, de la même paix, de savoir que Dieu est au contrôle de nos histoires, pas d'allure. À l'école, comme au travail, que dans vos familles. Qu'on perd le contrôle, qu'on panique, qu'on fait de l'anxiété, on se dit, comment que ça va se résoudre la situation? Et pourtant. Troisième leçon à retenir maintenant. Apprendre du passé nous aide à comprendre que Dieu a annoncé le salut depuis des milliers d'années pour tous et toutes, utilisant hommes et femmes pour le faire. Et là, j'ai mis ici Boaz et Ruth. Oui, Boaz lui paraît bien. Mais Ruth, c'est une Moabite. C'est une Moabite. Urk. Elle vient du pays d'à côté où ce que les ancêtres sont tous venus d'un inceste. Histoire. On ne veut pas s'associer à ce monde-là. L'autre bord de la rivière, c'est deux peuples, Ammon et Moab, qui viennent de Lot, puis ses filles qui ont couché avec. Oh, j'ai pas dit ça en public en plus. Oh, c'est dans la Bible. Et là, il y a cette femme-là, Ruth, qui se ramasse dans cette histoire-là. Une femme de l'autre côté du Jourdain, qui ne devrait pas être là, là. C'est une, pour le peuple juif, une païenne, une non-juive, Tu n'as pas de relation avec ce monde-là. Tu ne les invites pas chez vous. Tu ne les invites pas dans ton pays non plus. Et pourtant, Dieu, par des circonstances qu'on retrouve dans l'histoire de Ruth, ces quatre petits chapitres dans le livre de Ruth qui suit le livre des juges, une histoire de grâce au milieu du chaos du livre des juges, où ce que chacun faisait comme bon lui semblait. Tout le monde faisait comme, en fait, un peu comme aujourd'hui. Là, tu crois ce que tu veux, tu fais la religion que tu veux, puis hein, il y a bien des pays comme chacun fait comme bon lui semble, le petit roi de son royaume, hein, puis ça te convient, ben fais ta propre morale, puis fais tes propres règles. Puis au milieu de tout ça, cette histoire d'une Ruth, d'un peuple qu'on méprise, qui va se ramasser à marier un homme qu'on ne sait pas pourquoi il est tout seul, mais on sait une chose, c'est que sa grand-mère, c'est Rahab aussi. La prostituée de Jéricho. Ben voyons, il y a bien du monde bizarre dans la généalogie de Jésus. Puis elle est mentionnée, regardez là, il cache même pas, regardez. Verset 5, Salomon engendra Boaz, issu de... Ben non, il pouvait pas éviter de dire sa mère, me semble, tu sais. Elle avait pas une bonne job avant sa conversion. Évite de le dire. Ben non. Sur les pierres tombales du cimetière familial de Jésus, on nomme ces femmes-là gênantes dans la généalogie. On les inclut. Qui viennent d'un autre pays, les Cananéens, ils auraient dû être détruits avec Jéricho. Elle a survécu. Pourquoi? Parce que madame a caché des messieurs dans sa maison. Au péril de sa vie. Au péril de sa vie. Et qui a fait une profession de foi de dire, oh, le Dieu d'Israël, moi je sais, c'est quelque chose. C'est quelque chose, le Dieu d'Israël. Et sa foi est soulignée dans Jacques, sa foi est soulignée dans Hébreux, et elle se retrouve ici sans gêne, oui, sa mère c'était Rahab, la prostituée de Jéricho. Est-ce que ça avait handicapé de se marier? Je ne sais pas. Est-ce qu'elle avait perdu son épouse sans enfant, puis est un petit peu plus vieux? Je ne sais pas. Mais ils vont se marier ensemble. Et là, elle est inclue dans l'histoire de Jésus, tout comme Rahab, tout comme Tamar, tout comme la femme d'Uri qui est mentionnée aussi. Regardez, un peu plus loin, David, Salomon issu de la femme d'Uri. Ils disent pas Bathsheba, ils disent la femme du gars tué par David. Ils veulent pas le cacher. Dis dans le pierre tombale, t'écris des bons coups, t'écris une belle phrase. Sa vie était un rayon de lumière. C'était une personne lumineuse, hospitalière, une mère pour la ville, le village. T'sais, ses tourtières étaient écœurantes. Je sais pas, t'sais, on va mettre quelque chose, t'sais, qui va le démarquer. Mais tu dis pas, lui, c'était le fils de la prostituée de la ville. T'sais, personne met ça sur sa pierre tombale. Personne. C'est pas marketing, c'est pas glorieux. Mais dans le cimetière de la famille de Jésus, on cache rien. C'est pas beau, ça? On la raconte notre histoire, les bons coups, les mauvais coups. Pourquoi? Parce que ça glorifie Dieu le Père qui est le protecteur de cette famille. Ça glorifie Dieu le Père qui est le Dieu fidèle qui tient sa parole pour sa famille. Ça glorifie Dieu le Père parce qu'il a usé de grâce envers ces gens-là qui le méritaient pas, puis que Dieu leur a pardonné lorsqu'ils ont confessé son nom. Il a usé de bonté envers eux sans aucun mérite de leur part. Puis ça, c'est qui que ça va vanter le pire de ces conneries-là qu'on fait? Ben c'est le Père céleste, le Dieu protecteur de cette famille. Je peux-tu entendre un amen? C'est ce Dieu-là qui est honoré par ces pierres tombales pas d'allure avec des histoires gênantes. C'est le Dieu de grâce, le Dieu de la deuxième chance, le Dieu qui a envoyé une baleine pour te transporter comme taxi quand tu as pris le mauvais chemin. C'est pas beau, ça? C'est ça qu'on célèbre. C'est ça qu'on célèbre. Et donc, il inclut ces femmes et même cette Marie qui se retrouve dans cette histoire. Donc, l'inclusion de ces femmes et des gens d'autres nations démontre que Dieu n'est pas uniquement le Dieu des hommes et des Israélites. Parce qu'évidemment, dans les généalogies, c'est toujours des hommes, hein. Les hommes, ça, c'est choquant pour les femmes, hein. Oui. C'est qui les a portés, ces enfants-là? Je les entends, les femmes, le dire, là. Hein? Puis c'est vrai! Mais Dieu ici fait quelque chose de contre-nature habituellement. Dans le cimetière familial de Jésus, on ne vous oublie pas les femmes. Et même on sort les histoires les pires pour montrer comment Dieu est rempli de grâce. Et il montre ici que Dieu montre sa faveur envers les non-juifs dans l'ascendance de Jésus et il fera aussi dans sa descendance de Jésus spirituel. Dieu s'est toujours préoccupé des nations. Il n'a jamais juste occupé d'Israël. Il s'occupait d'un peuple pour rayonner pour tous les peuples. Il a toujours eu à cœur toutes les nations. Et quand vous lisez l'Ancien Testament avec attention, vous voyez que ce n'est pas le Dieu d'Israël seulement, c'est le Dieu de tous ceux qui vont croire dans le Dieu d'Israël et qui s'est offert et qui est intéressé à tous. On en retrouve partout des histoires de l'intérêt de Dieu pour les nations à travers tous les livres de la Bible. Il faut juste le lire plus attentivement. Quatrièmement, apprendre du passé. Je le rappelle, c'est se rappeler que Dieu est souverain et protège son peuple, probablement. Deuxièmement, c'est que Dieu est plein de grâce. Troisièmement, que Dieu a annoncé son salut depuis longtemps pour toutes les nations, utilisant hommes et femmes, parce qu'il a toujours eu à cœur tous les hommes et femmes, de toute nation, de toute langue, de toute culture, sans exception. Quatrièmement, Dieu veut qu'on s'en rappelle. C'est pour ça qu'il y a des pierres tombales. C'est pour ça que c'est écrit. Puis qu'on a un cimetière ici gardé au début du livre. C'est pour qu'on l'oublie pas, parce qu'on l'oublie facilement. Les pierres tombales nous rappellent les noms, les dates, les histoires. Les noms sont soulignés, nous sont réservés pour que ça stimule notre souvenir des histoires qui devraient nous imprégner et nous rappeler des vérités importantes. Ce sont des noms liés à des histoires et faciles à mémoriser. Et pour aider à mémoriser, bien voici ce qu'il fait au verset 17. Regardez bien avec moi. C'est avec ce dernier point-là qu'on va conclure ce matin. On dit au verset 17, « Le nombre total des générations est donc de 14 à partir de Abraham à David. 14 de David à la déportation de Babylone. 14 de la déportation de Babylone jusqu'au Christ. » Et ce qu'il est en train de dire, c'est qu'il y a 14 générations ici que je vous ai écrites. Il y a 1000 ans que ça couvre entre Abraham et David. 14 générations, versets 7 à 11, qui couvrent ici 400 ans. Jusqu'à la déportation, et 14 générations de la déportation jusqu'à Christ, 600 ans. Pour nous aider à s'en souvenir par cœur, l'auteur, d'une façon arbitraire, a fait une structure de 14-14-14 entre les événements importants de l'histoire. L'alliance avec Abraham, qui dit, il va y avoir un descendant qui va bénir toutes les nations. C'est qui? Je n'ai pas entendu. C'est Jésus-Christ. Après ça, il dit à David, il va avoir un roi qui, lui, va avoir un trône, contrairement au tien qui va être sur terre. Lui, il va être éternel. C'est ma promesse. Et c'est qui ce fameux roi des rois? Jésus-Christ. N'est-ce pas? Et bien avant ça, il y a eu aussi les prophètes. Un plus grand prophète que moi va venir, disait Moïse. C'est qui? Jésus-Christ. Et là, il y a la déportation qui met tout en péril. Israël, sa nation. Et que Dieu va protéger, et malgré tout, un autre 14 générations jusqu'au... Alors, c'est pour se rappeler 14. Mais là, vous allez dire, ouais, mais là, c'est un peu arbitraire, mais ça ne marche pas. Il doit y avoir des trous. Effectivement, il y a quelques trous. Et déjà, en les regardant brièvement, on est capable de voir des trous. Je pourrais vous en nommer plusieurs, mais c'est pas mon but ce matin. Il a choisi 14 noms qui sont tous là pour faire une séquence facile de se rappeler les grands noms importants, des grandes lignes de l'histoire de 2000 ans des générations de Jésus. Un cimetière de 2000 ans. C'est rare qu'on voit ça. Tu trouves une pierre tombale qui a 200 ans, 300 ans, puis ce qui est écrit est pas mal effacé, tu sais. Là, ici, on a un cimetière, là, au début de notre Bible, de 2000 ans. Mais organisé de façon 14-14-14, trois événements historiques importants, Abraham, David, déportation et le Christ qui est né, pour qu'on l'apprend par cœur facilement. Ça soit facile à l'apprentissage. Et c'est ça le but. C'est arrangé de façon, un arrangement de généalogie qui favorise la mémorisation en utilisant les séquences logiques de 14. Et là, tu apprends les 14 et là, tu peux le raconter à tes enfants. Et c'était la méthode juive, pédagogique, pour transmettre d'une génération à l'autre. Là, maintenant, ils vont dire, mais pourquoi 14? Pourquoi 14? Quelqu'un qui sait? Hein? Ah, il y en a qui disent ça. 2 × 7, là, les mathématiques. Le chiffre 7, ça serait parfait. Mais il y a une réponse plus simple, fort probable qu'il est la bonne aussi, que plusieurs commentateurs optent pour, puis que je suis d'accord avec. David, il y a 3 lettres dans David. D, V et D. Les voyelles n'existent pas en hébreu, ils sont des sons qu'on accroche en dessous ou par-dessus. Et la valeur de D, c'est 4, c'est la 4e lettre de l'alphabet. Le V, c'est la 6e lettre de l'alphabet. Et l'autre est évidemment le D qui revient, 4e lettre. Et on arrive au chiffre 14. Et ça serait une méthode assez typique des Juifs de calculer la valeur numérique de David. C'est le roi David, c'est pour les Juifs. Et la valeur numérique de David, ben c'est 14. C'est la réponse la plus simple que j'ai trouvée parmi beaucoup de commentateurs et qui fait du sens par le fait que c'est écrit à des Juifs pour qui il y a des valeurs numériques comme ça, qui connaissent ces choses-là. Et donc, facile à ça rappelle David, 14, 3 × 14, des événements. Et là, on s'en souvient facilement. Et là, tu peux le raconter à ta descendance pour raconter les histoires de comment Dieu est au contrôle, de comment Dieu a été gracieux, de comment Dieu inclut les nations, puis il a toujours eu à cœur les nations, puis comment Dieu veut qu'on s'en rappelle. Vous me suivez? Tout ça, c'est pour être des aides pédagogiques à retenir les noms et qu'on l'apprenne facilement par cœur pour qu'on puisse raconter l'histoire de Dieu dans notre vie, dans nos vies, dans la vie de Jésus en particulier, dans ce cas présent, mais aussi dans nos propres vies. Qu'est-ce qu'on retire comme leçon de ça? Hébraïque. 6e lettre de l'alphabet hébraïque. J'ai peut-être mentionné l'idée. Okay? L'alphabet hébraïque a 22 lettres. Et donc, elle ne s'organise pas exactement comme la nôtre. Elle est une langue sémitique. 4 leçons ce matin que j'aimerais qu'on retire de ces 4 observations brièvement. Okay? Première, peu importe ta situation, Dieu est au contrôle et accomplira sa volonté. Il est souverainement au contrôle de l'histoire et cela malgré l'apparence de chaos. C'est la première chose que je veux vous dire ici. Quand je me rassure avec la vérité théologique, Dieu est souverain. C'est pas juste une belle déclaration. C'est pas juste quelque chose qui est un gros mot. C'est lourd de sens. Ça veut dire que Dieu règne, que Dieu est au contrôle, qu'il a un contrôle providentiel. Ça veut dire que tout se passe selon la manière dont lui place les choses. Il n'y a rien qui est échappé. Et ça devrait me rassurer. C'est exactement ce que je dis pour ma situation d'épreuve difficile aujourd'hui. J'ai des circonstances difficiles dans ma vie. Vous en avez aussi. Et comment je me réconforte? Je dis, garde Dieu, je comprends pas ça. Ça, je trouve ça difficile. Je sais pas comment tu vas sortir ton épingle du jeu de cette situation-là. Mais tu mérites ma confiance quand je regarde la généalogie de Jésus. Tu t'es toujours démontré fidèle à être au contrôle, d'une manière incroyable, à résoudre des situations jamais de la même façon, d'une façon originale, signée Dieu. Et tu mérites ma confiance. Et peu importe c'est quoi aujourd'hui, je vous invite comme moi à le mettre entre les mains de Dieu. À mettre entre les mains de Dieu. Avant de parler du prochain point, je veux juste vous rappeler ici qu'est-ce qui est écrit au verset 16. Regardez bien ce qui est écrit. Il engendra Jésus, celui qu'on appelle le Christ. Qu'est-ce que ça veut dire, Jésus? Celui qui sauve, ou l'Éternel sauve, le Seigneur sauve. Jésus est celui qui est venu pour nous sauver. C'est ce que son nom veut dire. Le Christ, qu'est-ce que ça veut dire, le Christ? C'est le mot grec pour traduire le mot hébreu « Messie ». Hein? Quand on dit le Christ, c'est le Messie. C'est la traduction grecque, tout simplement, le Christ. Et ça veut dire le oint. Parce qu'évidemment, à l'époque, on oignait pour nommer un nouveau roi, on le oignait par le prophète ou le sacrificateur. Pour le grand sacrificateur ou encore pour un prophète, on le oignait. C'est l'oint, celui qui est oint par Dieu. Et Jésus incarne tout ça. C'est le oint de tous les temps qu'on attendait, qui lui serait le sauveur. L'incarnation, parce que dans l'Ancien Testament, on dit que l'Éternel est le sauveur de son peuple dans Isaïe. Jésus est l'incarnation sur terre, le Fils de Dieu, qui est le sauveur. Et si vous ne connaissez pas Jésus ce matin, vous devez savoir ces vérités sur le nom de Jésus. Ça dit qu'il est sauveur quand vous dites Jésus. Et quand vous dites le Christ, c'est le oint de l'Éternel qui remplit tous les rôles qu'on avait besoin pour qu'un sauveur puisse avoir accès au pardon de nos péchés par son sacrifice à la croix. C'est ces noms-là qui nous dit qui il est et sa fonction et pourquoi il est si précieux pour nous. Deuxième leçon, Dieu est plein de grâce et aime sauver les pires des pécheurs. Et c'est pour cela qu'il a inclus plusieurs noms dans cette lignée pour nous le rappeler. Il n'y a pas de trop grand pécheur qui fait que tu sois trop loin de Dieu. Et en plus, peut-être tu t'identifies comme quelqu'un qui dit « Ah, oh, moi, j'ai fait ça, j'ai déjà fait ça. Il n'y a pas vraiment d'espoir pour moi. Je vais juste rester assis ici. Moi, juste écouter, je ne ferai pas rien parce que moi, j'ai fait telle ou telle erreur. Je suis stigmatiqué avec telle ou telle étiquette. » Mais avec Jésus, ce n'est pas comme ça. Oui, tu as fait une faute auquel les gens vont t'identifier. Mais avec Jésus, l'histoire n'est pas terminée. Et Dieu aime prendre le pire des pécheurs pour en faire une lumière pour lui. Et se glorifier à travers ce qu'il fait dans sa vie. Mais pour cela, il faut répondre à la grâce. Et vous savez comment on répond à la grâce? Jésus dit, le royaume de Dieu s'est approché, il s'est accompli. Qu'est-ce que vous devez faire? Repentez-vous, convertissez-vous et croyez. C'est les deux impératifs que Jésus donne. Il dit, le royaume est venu vers vous, ça s'est accompli, tout ce que Dieu avait à faire, là, Dieu a tout fait, clé en main. Il a accompli, il a rempli son côté du deal. Et l'autre côté du deal, tu n'aurais pas pu rien faire si lui ne l'avait pas fait. Mais là, il le fait, et parce que Dieu a rempli le deal, tu peux répondre au deal. Mais pas de deal, il n'y a pas de réponse utile. Vous comprenez? Ta réponse n'est pas une œuvre, c'est une réponse à quelque chose qui est déjà toute faite. Et ça se répond par la repentance des péchés. Ça se répond par croire que Jésus est vraiment le Jésus selon la définition de son nom. Et que Jésus est vraiment le Christ. Il y en a un seul. Dieu incarné en homme. Et c'est juste lui. Et c'est comme ça qu'on répond à la grâce. Repentance. Croire. C'est ce que Jésus a dit. Pas moi. C'est ce que Jésus a dit. Troisième leçon. Dieu a toujours voulu que le message de l'Évangile soit offert à toutes les nations. Et ce, depuis le début. Malgré que des fois, on dit, ah, le Dieu d'Israël dans l'Ancien Testament, il est comme ci, il est comme ça. Ah, il est juste pour Israël. Lisons attentivement, les amis. Lisons attentivement les Écritures. Et il s'est toujours intéressé à toutes les nations, depuis le premier livre jusqu'à la fin de l'Ancien Testament. Il a toujours été préoccupé par tous les hommes et les femmes. Sans distinction de nationalité, d'ethnie, de couleur de peau, de langue. Et c'est pas pour rien qu'à la fin, dans l'Apocalypse, comme un refrain qui revient 7 ou 8 fois, il y avait des gens de toute nation, de toute langue, de toute ethnicité, de toute culture. C'est répété à travers l'Apocalypse comme un refrain. Parce que c'est ça qui est sur le cœur de Dieu. Jamais Dieu n'a été dans un sens à juste chérir eux autres, les autres, je m'en fous. C'est une mauvaise conception qui n'est pas biblique de ce Dieu de l'Ancien Testament, qui est le même dans le Nouveau Testament, qui est le Dieu qui a envoyé Jésus pour nous. Amen. Et finalement, la dernière leçon. Dieu veut que je me souvienne. Et ça, vous savez, c'est le plus gros défi. On est oublieux. C'est pour ça qu'il y a un 3, 14, 14, 14. Pour nous faciliter, pas que les chiffres sont importants, c'est juste une méthode d'apprentissage. Ah oui, attends, c'est qui le sixième là, dans la première partie? Puis là, tu l'apprends par cœur, puis ça te rappelle son histoire. Puis ah oui, lui est dedans. Puis ah oui, puis là, cette fois-là, il rajoute sa femme. Là, puis, c'est une méthode pour se souvenir. Il ne faudrait surtout pas, les amis, oublier les histoires de la famille de Jésus. Parce qu'on passera à côté de des leçons extraordinaires. Des leçons à raconter présentement à nos enfants qui sont dans la salle, à nos enfants pendant cette semaine, alors qu'on va célébrer Noël, qu'on ne fait pas juste donner des cadeaux, mais que Jésus est le cadeau qui nous a changé notre vie. Jésus est celui qu'on aime dans la famille. se souvenir parce qu'on est oublieux et qu'on a tous besoin d'un aide-mémoire. Et c'est pour toutes ces raisons, mes amis, que c'est bon de prendre une marche dans le cimetière de la famille de Jésus. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole dans nos cœurs. J'ai invité l'équipe de louange, on va prier. Père Céleste, on te remercie pour ta parole qui nous surprend toujours, des leçons qu'elles contiennent partout ce qu'on lit dans les Écritures, des paroles qui ont été préservées par Dieu pour des centaines d'années. Seigneur, parle-nous encore ce matin. Alors qu'on va célébrer Noël et qu'on ne veut pas passer à côté de son vrai message, des leçons importantes. Rappelle-nous des vérités qu'on peut mettre en pratique aujourd'hui dans ma relation avec les gens, dans ma relation avec Dieu, dans ma relation de couple familiale. Ce matin, Seigneur, j'ai des défis. On a tous des défis. Et ces vérités s'appliquent à chacun de nos défis. Et tu veux nous encourager ce matin. Tu veux nous redonner de l'espoir lorsqu'on est découragé. Tu veux nous redonner de la lumière au bout du tunnel alors qu'on peut se sentir qu'il fait sombre autour de nous, que je suis seul, que je suis oppressé, que c'est à l'étroit. Oui, parce que je suis sur le chemin étroit à suivre Jésus. Mais je suis avec Jésus. Et Jésus est la lumière du monde, il est la lumière au bout du tunnel et je peux persévérer avec son aide et recevoir le soutien que j'ai besoin chaque jour pour me rendre un pas à la fois, de plus en plus proche de la destinée qu'il a pour moi. Ô Père Céleste, tu mérites notre confiance. Toi qui es le Dieu de l'histoire, toi qui es le Dieu de Jésus, toi qui es notre Dieu. Aujourd'hui, en 2024, aide-nous à apprécier, Seigneur. Bénis ces festivités de Noël autour de la nativité de Jésus. Puisse nos cœurs être réchauffés en ta présence et être fiers de dire que nous croyons. Nous sommes de ceux qui célébrons Noël pour la vraie raison, pour Jésus. Parce qu'on aime Jésus, parce qu'on croit en sa naissance et on croit surtout dans l'identité miraculeuse qui est sortie de cette naissance. Jésus-Christ, le Christ, né à Nazareth, né à Bethléem, mais de Nazareth. Et qui accomplit tout les promesses. Loué sois-tu, Seigneur, pour ton Fils. Et bénis ces vérités en nos cœurs, tout particulièrement pour ceux qui vivent des luttes ce matin, de toutes sortes, et que ces vérités ont particulièrement besoin d'être ressenties, d'être pesées dans le cœur. Et c'est dans le nom de ton Fils Jésus-Christ que je te prie. Amen.